Bonjour à tous. Bon, avant de vous parler de Thessaloniciens, juste un petit détail. Avant l'agape, on a un petit apéritif parce qu'avec Jacqueline, il y a 50 ans qu'on est mariés. Voilà. Bon, ça fait 50 ans et une semaine en fait. Et la dernière semaine est peut-être la plus importante. Bon, prions. Seigneur, nous voulons te demander de faire silence en nos cœurs, que nos oreilles soient attentives et que nos cœurs soient ouverts pour toi, Seigneur. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 2, les 12 premiers versets. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice ou une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume de gloire. Alors Paul, après avoir dans son premier chapitre parlé du témoignage exemplaire des Thessaloniciens, parle maintenant de son service parmi eux. À Thessalonique, le ministère de Paul fut d'abord celui d'un évangéliste, et puis quand plusieurs furent venus à la foi, il exerça celui de berger. Et dans ces deux activités, il fut fidèle et dévoué. Au premier chapitre déjà, il avait dit « Vous savez quels nous avons été au milieu de vous pour l'amour de vous. » Et il développe maintenant cette pensée. Paul était plein d'amour pour les Thessaloniciens. Il les portait dans son cœur et priait pour eux. Et ce chapitre nous fournit un précieux exemple du dévouement d'un serviteur dont l'affection profonde pour ses auditeurs prend la source dans l'amour de Dieu. Alors, bien qu'un ministère tel que celui de Paul n'ait, je pense, été confié à aucun d'entre nous, on peut toutefois apprendre beaucoup de l'apôtre. Le Seigneur ne nous a peut-être pas confié le don d'évangéliste, ni celui de pasteur, mais nous devons et nous pouvons être ses témoins dans le monde. Nous pouvons et nous devons être en aide à nos frères et sœurs. Ainsi, ce début de chapitre, qui à première vue ne paraît pas contenir beaucoup d'enseignements pratiques, est en fait important et instructif. On va essayer d'en tirer un enseignement. Au-delà des cultures, au-delà du temps et de l'espace, un enseignement pour nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette épître, 8 fois, et 3 fois uniquement dans ce texte, l'apôtre dit des Thessaloniciens qu'il savait. Il savait déjà ce qu'il allait leur dire, ou ce qu'il leur disait. Et ce qu'il leur dit peut nous est confirmé par ce témoignage. Alors, en reprenant l'ordre chronologique de la lecture, Paul parle de son arrivée. Les Thessaloniciens savaient bien quelle avait été l'arrivée de Paul parmi eux. Celui-ci leur rappelle ce qu'eux-mêmes avaient vécu et la bénédiction dont Dieu avait accompagné la prédication de l'Évangile. Souvenons-nous, après avoir été battu, mis en prison et délivré par un tremblement de terre, disons fort opportun, et ça c'était à Philippe, Paul n'avait pas fui à Thessalonique, il y était venu afin de gagner cette ville à l'Évangile. Et sa venue n'avait pas été vaine. Des fruits pour Dieu avaient été produits. Paul et Sylvain avaient accompagné courageusement leur service, avaient accompli courageusement leur service. Leur assurance, leur hardiesse, comme Darby le traduit, était en Dieu. Ils parlaient sans se laisser effrayer, sachant que rien ne pouvait les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle qui leur avait été confiée. Mais la prédication de l'Évangile était accompagnée de beaucoup de combats, dit Paul au verset 2. En dépit des obstacles que Satan soulevait pour empêcher l'œuvre, l'apôtre et ses compagnons pouvaient compter sur la puissance du Seigneur pour soutenir ce combat spirituel. Et puis Paul éprouvait constamment le besoin de prière, de la prière des saints, pour que cette hardiesse de Dieu lui soit toujours accordée. Il disait aux Éphésiens, « Priez pour moi, pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Est-ce que nous n'éprouvons pas le besoin aussi de prier pour que nous soyons hardis pour Dieu ? Il peut être relativement simple d'avoir de la hardiesse quand les circonstances sont faciles et favorables. Mais qu'en est-il quand on rencontre l'opposition et la raillerie? Puis quand on continue, les versets 3 à 6, on voit d'abord des aspects négatifs du ministère, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, ce que l'apôtre et ses compagnons n'ont pas fait. Puis après, on verra les aspects positifs. Or, les aspects négatifs, ils sont au nombre de 7. 7 aspects qui étaient absents de son ministère. Il n'y avait pas d'erreur ou de séduction, pas d'impureté, pas de fraude, pas de recherche à plaire aux hommes, pas de flatterie, pas de cupidité, et pas de recherche de la gloire personnelle. Les persécutions qu'ils subissaient ne venaient pas toutes de l'extérieur. Visiblement, parmi les croyants, il y en avait aussi qui le calomniaient, en jetant des doutes sur les motifs de son activité. Il devait ainsi combattre sur plusieurs fronts. Mais Paul n'avait rien à se reprocher. Ses motifs étaient purs, sans mélange. Il n'en est pas autrement aujourd'hui. Si nous voulons servir Dieu, nous risquons des attaques, pas seulement de la part de ceux du dehors, mais aussi de la part de ceux du dedans, attribuant des mauvais motifs à notre action. Il est important que nous éprouvions nos cœurs de manière permanente afin que personne ne puisse nous faire des reproches justifiés. Alors Paul dit premièrement que son exhortation n'a pas eu pour principe l'erreur ou la séduction. La séduction, c'est Darby qui le traduit ainsi. Séduire. Séduire signifie ici induire en erreur, volontairement. Et ça, c'est la manière d'agir d'un faux docteur, pas d'un vrai serviteur du Seigneur. C'est la manière d'agir de ceux dont parle Jude. Ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam. Puis l'apôtre Jean parle aussi de cela quand il met en contraste dans sa première épître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Mais la source de prédication de Paul était l'authentique parole de Dieu et non pas une doctrine falsifiée ou une fausse doctrine. Deuxièmement, Paul mentionne l'impureté. Il ne prêchait pas pour des raisons malsaines, mais il vivait dans la sainteté personnelle et la pureté. La séduction et l'impureté vont souvent de pair. L'appartenance à Dieu conduit toujours à la sainteté, alors que beaucoup de religions païennes associent l'immoralité à leur culte. Soyons attentifs aux prophètes, j'ai mis entre guillemets prophètes de notre temps. L'erreur doctrinale et l'impureté morale sont souvent liées. Et on le voit dans bon nombre de sectes ou à peu près toutes les sectes. L'apôtre nous met en garde, l'apôtre Pierre. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Troisièmement, Paul parle de fraude ou de ruse. Paul n'avait pas trompé les Thessaloniciens en leur cachant leurs conditions réelles. Il leur avait présenté le pur évangile pour les amener au salut. Paul dit aux Corinthiens, « Nous n'avons point une conduite astucieuse, pas d'astuce dans la prédication. » Paul était profondément conscient que Dieu lui avait confié le message de l'évangile. C'est pourquoi il se sentait responsable de ce qu'il disait, non pas responsable devant les hommes, mais devant Dieu. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Et c'est le quatrième motif qui doit être exclu de l'activité d'un chrétien. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes, seulement à Dieu. Or, le danger d'adapter nos paroles à nos auditeurs est toujours grand. Pierre nous exhorte à parler comme des oracles de Dieu. Le message qui nous est confié est grand, il est grave, il est important. C'est pour ça qu'on ne doit pas être préoccupé de dire des paroles qui plaisent aux hommes, mais seulement qui plaisent à Dieu. On doit dire ce que Dieu nous demande de dire, sans l'édulcorer, par crainte de nous attirer des difficultés. Ce qui est décisif, c'est l'approbation de Dieu, pas celle des hommes. Que le message que nous annonçons soit exemplaire, comme celui de Paul, basé sur les Écritures, comme il nous est rapporté dans les Actes. Un message exemplaire contient le rappel de la venue du Messie. Un message exemplaire rappelle que le Messie devait être crucifié pour nos péchés. Et un messager exemplaire dit que Jésus est le Messie. Alors, en tant qu'Église, lors de nos réunions, lors des concerts, lors de toutes sortes d'évangélisations, est-ce que nous avons un message exemplaire ? En tant que chrétien, individuellement, est-ce que nous avons un message exemplaire ? Ensuite, nous trouvons au verset 5 les cinquième et sixième aspects que ne doivent pas revêtir notre service. Il s'agit de choses qu'on peut observer souvent, la flatterie et la cupidité. Paul prend à témoin les Thessaloniciens, et puis Dieu lui-même, que ces deux mots ne furent pas trouvés en lui. Flatter ses auditeurs manifeste le désir de produire une impression agréable sur eux. Nous ne pouvons pas être, comme dit Ézéchiel, pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Bien sûr, une parole agréable fait plaisir aux auditeurs. Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas celui qu'ils veulent entendre. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que Paul dit à Timothée. Les belles paroles ne font que bercer, sans nous mettre en présence de celui qui sonde les cœurs et les reins. Et cela est valable non seulement pour les gens de l'extérieur, mais pour nous aussi, chrétiens. On aime les belles prédications, celles qui suscitent peut-être de l'émotion, mais qui ne s'adressent pas à notre conscience. La parole de Dieu est tout autre. Elle va jusqu'au fond de notre être, et c'est pas toujours doux et agréable. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants, et une épée à deux tranchants, ça peut faire mal. Paul dit, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est témoin, Paul n'avait pas agi par cupidité, travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun des Thessaloniciens, il prêchait l'Évangile gratuitement. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. La convoitise des richesses est odieuse aux yeux de Dieu. Et le Seigneur lui-même mettant des gardes, voyez et gardez-vous de toute avarice ou de toute avidité. La cupidité est une forme d'idolâtrie. En aucun cas, elle ne doit être vue chez le chrétien, ni bien sûr chez le serviteur de Dieu. Que penser de certains télé-évangélistes américains ? L'amour de l'argent, s'il peut être caché un temps aux yeux des hommes, ne le peut jamais aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et de Saphira ? Puis, au verset 6, on arrive à la septième chose qui doit être exclue de notre service, notre mise en valeur. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Et je pense qu'on est tous plus ou moins exposés à vouloir dépasser les autres, à rechercher l'honneur de la part des hommes. Et même au sein de l'Église, ce danger existe. Et je pense que nous devons tous prier pour en être gardés. Ce désir de s'élever lui-même caractérisait un certain diotrephe dont l'apôtre Jean disait à son ami Gaius, « Il aime être le premier parmi les saints. » Et Satan, qui connaît nos cœurs, peut-être mieux que nous ne les connaissons, sait avec quelle facilité on recherche les honneurs. et il tente continuellement de nous faire tomber par ce moyen. Souvenons-nous de ce que le Seigneur disait, « Quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors après nous avoir dit ce qu'il ne faut pas faire, Paul va nous dire ce qu'il faut faire. Et il associe aussi ses compagnons de service, il parle au pluriel. Et il nous montre en 4 points un exemple à suivre pour avoir un ministère béni et efficace. Alors le premier point, les soins d'une mère. Et Paul compare sa conduite à l'attitude d'une mère qui nourrit ses enfants. C'est cette image que le prophète Ésaïe nous donne de l'amour de Dieu pour les siens. Dans Ésaïe 66, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Et puis Paul est un imitateur de Christ, Christ qui nourrit et prend soin de son Église. L'apôtre et ses compagnons avaient à cœur la croissance spirituelle des Thessaloniciens. De même, notre devoir, c'est peut-être aussi d'avoir soin de la croissance des plus jeunes, des nouveau-nés dans la foi, de les nourrir, d'en prendre soin. Et puis pour ceux qui leur étaient si chers, il était même prêt à sacrifier sa vie. Est-ce que nous le sommes ? Le deuxième point, ne pas être à charge. L'apôtre désirait suffire à ses propres besoins, afin de n'être à la charge d'aucun croyant. Il offrait l'évangile gratuitement, bien que la parole nous exhorte à de nombreuses reprises à subvenir aux besoins matériels des serviteurs de Dieu. Il disait aux Corinthiens, « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Il continue, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. » Ensuite, avoir une conduite exemplaire. Une conduite sainte, une vie séparée du mal, entièrement consacrée à Dieu. Une conduite juste, ne présentant aucune partialité. Et une conduite irréprochable, respectant les lois et les coutumes locales. Paul enseigne à Tite, et au-delà à nous tous, à vivre selon la grâce de Dieu. C'est Tite 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors chaque chrétien, vous et moi, devons nous efforcer de vivre selon ces préceptes, afin de ne jamais pouvoir être objet de reproches de ceux qui nous observent. Et enfin, le dernier point, être un père. Exhortant, consolant, conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, d'arbitre traduit, rendant témoignage. Il faut comprendre, indiquer le chemin, consoler, être un exemple. Or, bien sûr, cela s'adresse aux conducteurs, aux responsables. Mais n'est-on pas tous responsables de notre frère, de notre sœur ? Oui, je suis. Tu es responsable de ton frère et de ta sœur. Alors que Dieu nous donne de suivre à notre niveau et dans toute notre vie cet exemple que Paul nous laisse. Alors quand j'ai préparé cette étude, je ne savais pas, mais vendredi, j'ai reçu un petit message mail de Dominique Moreau. Vous connaissez Dominique Moreau de Saint-Étienne ? Non, il y en a qui le connaissent, ils reçoivent toutes les semaines une petite pensée. Je vais vous la lire. Elle est intitulée « Viser la gloire de Dieu ». Et son texte, c'est 1 Thessaloniciens 2, verset 6. « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. » Alors sa pensée. « Le crayon trace ce que la main décide, le musicien suit la partition, et nous, en tant que chrétiens, quelles sont nos dispositions ? Celui qui cherche à plaire à Dieu se désintéresse de la gloire des hommes. Celui qui aspire à la simplicité et l'humilité du Christ, fuit leurs applaudissements. Méprisons la faveur des hommes, aspirons aux splendeurs de la foi qui touche le cœur de Dieu. Que notre souci ne soit pas de paraître comme un coq au sommet d'un poulailler, mais d'être approuvé de Dieu. Paul témoignait aux Thessaloniciens ce comportement effacé dans son apostolat. Quelle leçon ! Glorifiant Dieu, en tournant le dos à notre chair orgueilleuse, balayant ce qui est vain dans notre vie pour laisser le champ libre à l'influence du Saint-Esprit. Regardons à Jésus-Christ qui inspire l'oubli de soi et l'amour de l'autre. Incitons notre cœur vers lui pour dépasser ce que notre égoïsme suggère. Je sais que vouloir plaire aux hommes est un mal dont l'on peine à se défaire. Mais attachons-nous à l'essence de la piété plutôt qu'à l'apparence. Laissons l'esprit vivifier le caractère de l'agneau en nous et tuer celui du vieil homme qui le menace. En visant ce qui importe à Dieu, notre témoignage le glorifiera. Amen.
Merci pour tout ça. Alors, effectivement, on voit dans Thessaloniciens que c'est beaucoup de rappels. Il dit, vous savez, mais on a besoin de se rappeler parce qu'on oublie rapidement. Et ça m'a rappelé un verset dans Jean, j'aimerais terminer dessus. C'est Jean qui parle et qui dit que, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors je nous invite ce dimanche et cette semaine à aimer plus la gloire de Dieu que la gloire des hommes, même si c'est pas facile et c'est un combat pour tous, qu'on puisse rendre toute gloire à Dieu. Amen.